Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Donc cette année, nous lisons ensemble l'épître de Saint Paul aux Romains, la plus importante mais aussi la plus complexe des épîtres de Saint Paul. Et nous en avons déjà lu avec vous la plus grande partie, puisque lors de la dernière émission, nous nous étions arrêtés au début du chapitre 15. Donc, nous abordons aujourd'hui la fin de cette lettre aux Romains. Ensuite, nous essaierons d'en faire une synthèse, autant que cela nous sera possible. Puis, nous regarderons comment cet épître aux Romains trouve sa place dans les lectures habituelles de nos célébrations pour mieux comprendre son importance pour nous aujourd'hui. Reprenons d'abord le texte où nous l'avions laissé, c'est-à-dire chapitre 15, verset 5-6, qui est une prière de saint Paul. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je continue au verset suivant. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Il est donc question ici de l'unité des chrétiens, qui était déjà pour Paul une grande préoccupation.
Oui, et c'est même, je dirais, le thème principal de cet épître aux Romains. Mais dans un sens assez différent de ce que nous connaissons de nos jours, car le problème des premières communautés chrétiennes était la difficile cohabitation des convertis venus du paganisme et des convertis d'origine juive. Car rappelons-nous que les chrétiens d'origine juive considéraient que le baptême chrétien ne devait pas supprimer l'obéissance à la loi de Moïse. Et même plus, ils demandaient que les païens se plient également aux règles du judaïsme en devenant chrétiens. Nous avons vu au début de l'épître de Paul que Paul n'était pas du tout de cet avis, qu'il pensait que juifs et païens étaient tous égaux devant la grâce du Christ, parce que tous subissent le même asservissement au péché. C'est pourquoi d'ailleurs les apôtres, réunis en concile à Jérusalem, décidèrent d'un commun accord de ne pas imposer la loi juive aux chrétiens. Et on peut lire cela dans les Actes des apôtres, au chapitre 15, verset 10. Donc je vais vous le lire, et là c'est Saint-Pierre, qui parle. « Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples le joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ?»
Oui, c'est une humilité, mais c'est bien sûr cette égalité de tous devant la grâce du Christ qui doit être la base de l'unité des chrétiens, et donc de leur fraternité accueillante, comme ils demandent. Personne ne peut prétendre à une quelconque supériorité du fait d'une origine juive ou autre. Et d'ailleurs, saint Paul continue sa lettre aux Romains en citant plusieurs textes de l'Ancien Testament, où il est question des nations païennes, touchées par le Dieu d'Israël, soit qu'elles entendent parler de lui par les louanges qu'Israël lui adresse, comme dit le psaume 18, soit que les nations païennes elles-mêmes sont invitées à le célébrer, comme l'on lit dans le psaume 117, verset 1, « Nations, louez toutes le Seigneur, et que tous les peuples l'acclament. » Et saint Paul cite aussi le prophète Isaïe, chapitre 11, verset 10, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui, toutes les nations mettront leur espérance. » En citant ce texte, Paul exprime très clairement qu'il s'agit de Jésus, qui est venu non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations, et que cela était déjà annoncé dans les Écritures du judaïsme. Juif non-juifs, tous sont sauvés par le Christ de la même manière.
De nos jours, les problèmes de communauté sont différents. Il y a plutôt des sous-groupes de croyants qui se forment autour de manières différentes de croire ou d'interprétations théologiques différentes qui, malheureusement, ont, au cours de l'histoire, provoqué des schismes entre orthodoxes, protestants et catholiques. Et même au sein de l'Église catholique, il existe des divisions selon des conceptions différentes de la foi, hein, et même jusqu'au schisme de certains traditionnalistes. Tout cela, est bien évident, détruit l'unité des croyants. Et ce n'est pas un très bon témoignage pour l'évangélisation du monde. Mais il est pourtant important, hein, je pense, de préserver une certaine diversité. Car vouloir une uniformité, hein, de tous les chrétiens serait aussi une absurdité. Donc, construire l'unité des chrétiens dans le respect de leurs différences. Voilà un beau, mais difficile programme. En tout cas, Paul continue sa lettre en s'excusant presque, hein, de donner des conseils à la communauté de Rome. Je vous lis, donc on est toujours au chapitre 15, je vous lis le verset 20. « Je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'évangile que là où le nom de Christ n'avait pas encore été prononcé, pour ne pas bâtir sur les fondations qu'un autre avait posées. »
Oui, et ce n'est pas lui qui a posé les fondations de l'Église de Rome, hein, rappelons-le. On ne sait pas exactement comment elle fut fondée, d'ailleurs. Mais la communauté chrétienne existe depuis un bon moment déjà, quand Paul décide d'intervenir. Tout en éprouvant le besoin de s'expliquer sur cette ingérence qui n'est pas dans ses habitudes. Voici ce qu'il donne comme raison, chapitre 15, versets 23-24. « Mais maintenant, comme je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et que depuis bien des années, j'ai un vif désir d'aller chez vous quand j'irai en Espagne, j'espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir votre aide pour m'y rendre. » Alors, les contrées dont il parle, on suppose que Paul écrit cette lettre pendant qu'il se trouve à Corinthe, vers 57-58, en tout cas après son troisième voyage missionnaire. Et il estime avoir achevé alors sa tâche dans ces contrées dites orientales. Il est un peu disponible, donc il fait de nouveaux projets, dont celui de partir évangéliser l'Occident, et il vise l'Espagne et Rome. Et sur le chemin, il pense donc aux Romains et visiblement il a beaucoup d'informations en ce qui concerne leur communauté.
Oui, et c'est ça qui est étonnant. Hein. Il intervient, donne son avis à une communauté où il n'a jamais mis les pieds. Alors comment a-t-il été informé des problèmes que rencontrait l'Église de Rome ? Et suffisamment informé pour oser prendre des positions très fermes, hein, en commentant l'attitude des uns et des autres. Il n'avait pourtant pas le téléphone, je pense, à cette époque-là. Hein. Enfin, cela prouve, me semble-t-il, hein, que les réseaux de communication et de relations existaient tout autour de la Méditerranée et que les nouvelles circulaient assez facilement et rapidement avec les voyageurs. Il y avait certainement beaucoup, hein, de commerce international, par la terre, par la mer, et de plus, bon, il fait partie donc des réseaux des Juifs, de la diaspora, hein, qui devait être donc, ça devait être un moyen de communiquer plus facilement. Les familles juives étaient un peu disséminées partout autour de la Méditerranée, dans les grandes villes. Et comme on va le voir donc dans la conclusion de sa lettre, hein, en romain, saint Paul connaît du monde partout. Hein, des relations, des amis et même sa propre famille qui en partie se trouve à Rome. Donc il entretient de bonnes relations avec tout son réseau, visiblement. Et il sait comment se tenir au courant.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons de l'épître de saint Paul aux Romains, dont nous terminons à présent la lecture du chapitre 15 Et avant la pause, nous remarquions que saint Paul connaissait bien les problèmes de la communauté chrétienne de Rome, alors qu'il n'y était encore jamais allé, mais qu'il préparait seulement son prochain voyage chez eux. Il était étonnamment bien informé, et c'est là qu'il nous faut aussi admirer le choix judicieux que Jésus a fait en se révélant à Paul et en lui donnant le ministère d'apôtre des nations. En effet, Paul porte en lui-même une sorte d'aptitude naturelle à l'internationalité. Il est de Tarse, donc quasi mineur, dans la diaspora juive qui a déjà des ramifications partout. Il est aussi citoyen romain, donc avec des droits particuliers à Rome. Et enfin, il a fait ses études à Jérusalem, où il a sans aucun doute gardé des relations avec ses anciens coreligionnaires. Tout cela tisse un réseau de communication qui lui a non seulement permis de voyager facilement pour évangéliser, mais aussi de rester en contact et de toujours recevoir des nouvelles fraîches de partout.
Et je remarque qu'il écrit aux chrétiens de Rome en leur annonçant sa venue, mais aussi qu'il vient leur demander leur aide pour ses futurs voyages vers l'Espagne. L'habitude de demander une contribution aux paroissiens est donc très ancienne, et l'obligation chrétienne du partage est là dès l'origine. Et saint Paul donne une explication dans les versets suivants où il raconte qu'avant de venir à Rome, il passera à Jérusalem pour y apporter le fruit d'une collecte. Donc je vous lis ce passage, donc nous sommes toujours au chapitre 15, et là je vous lis les versets 25 à 27. « Mais maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et Achaïe ont décidé de manifester leur solidarité à l'égard des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Oui, elles l'ont décidé et elles le leur devaient, car si les païens ont communié à leurs biens spirituels, ils doivent également subvenir à leurs biens, à leurs besoins matériels. » Voilà, la solidarité nous est d'abord montrée comme un geste spontané, mais Paul ajoute qu'il trouve cela évident. À un don spirituel, il lui semble normal que l'on réponde par un don matériel. Alors cette division entre spirituel et matériel est quand même un peu simple pour être encore satisfaisante aujourd'hui, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai que cela produit une opposition un peu réductrice entre, d'une part, un clergé dispensateur de spiritualité et, d'autre part, les donateurs de biens matériels. Et ce n'est plus vraiment la situation de l'Église de nos jours, puisque maintenant les laïcs prennent part aussi à l'évangélisation, au catéchisme, aux célébrations, comme les obsèques, etc. Et même la charge est parfois lourde pour ceux qui doivent à la fois donner de leur temps de travail et leur argent pour subvenir aux besoins du clergé. Mais il faut bien voir que par principe, le clergé ne doit pas travailler ni gagner sa vie. Et donc, n'ayant pas d'argent, il dépend complètement des dons de ceux qui en ont. Et cela remonte même à l'Ancien Testament, puisque les prêtres du temple étaient des lévites qui ne disposaient d'aucune terre, mais dépendaient des autres tribus. Pourtant, je me permets de rappeler que saint Paul vantait la vertu du travail, et parfois même pour les évangélisateurs, puisque lui-même avait un métier et il était fier de subvenir lui-même à ses besoins. On peut lire ça dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7-8, je vous les lis. Saint Paul dit « Vous savez bien vous-même comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu au milieu de vous en paresseux et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, au labeur et à la peine, nous avons travaillé pour n'être à charge à aucun de vous. »
Eh oui, quel exemple. Donc pourquoi les prêtres ne pourraient-ils pas aussi gagner leur vie Alors, il y a bien eu une période de prêtres ouvriers depuis les années 50. C'est vrai que le pape Pie XII les avait interdits, mais le Concile Vatican II a restauré cette possibilité. Mais apparemment, cela n'attire pas grand monde aujourd'hui. Les prêtres au travail ne sont pas plus guère nombreux, je crois quelques centaines. Il est vrai que c'est quand même plus confortable pour le clergé de ne pas avoir à se préoccuper des difficultés du monde du travail. Cela leur permet d'être plus disponibles pour leurs relations avec les fidèles. Pourtant, on pourrait regretter parfois que cela les rend un peu inconscients des vraies difficultés du monde ordinaire. C'est si facile de demander de l'argent aux membres de la communauté, mais il faut aussi arriver à comprendre les problèmes de cette communauté. Le monde actuel du travail est dur. Il y a beaucoup de chômage, la vie est chère et l'argent manque souvent dans les foyers modestes. Et il semble un peu injuste quand même pour certaines familles chrétiennes de devoir se priver pour que l'Église n'ait pas de soucis matériels. Après tout, on pourrait aussi réduire les besoins et dépenses de l'institution pour qu'elle ne soit pas à la charge de personne, comme dit saint Paul.
Oui, je crois que le principe originel des quêtes, c'était la mise en commun des richesses. On peut lire ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44-45, je vous lis. « Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. » On voit là que le souci était que personne ne manque de rien. Et cela correspond d'ailleurs aussi à une règle de la loi de Moïse qu'on lit dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 4, qui dit « Il n'y aura pas de pauvres chez toi ». C'est ça qui correspond à une obligation de partage communautaire, et d'ailleurs c'est une caractéristique toujours actuelle du judaïsme. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Nous sommes avec saint Paul dans sa lettre aux Romains au moment où il leur demande de se préparer à lui apporter une aide, sans doute financière, donc pour qu'il puisse partir ensuite évangéliser l'Espagne. Et nous réfléchissions plus largement aux quêtes et aux collectes dans l'Église et sur la façon de partager les richesses pour que personne n'y manque de rien. Et d'après les Actes des Apôtres, les diacres, d'ailleurs, furent d'abord institués pour se préoccuper des besoins des pauvres, donc pour leur répartir le produit des collectes. Mais aujourd'hui, l'argent sert quand même d'abord à faire vivre l'institution, sans doute à cause du développement de l'Église dans les siècles précédents et des habitudes assez confortables prises grâce à une certaine opulence. Et comme, en général, personne n'accepte facilement de réduire son train de vie, il n'y a qu'à voir les manifestations, dès qu'il est question de perdre quelques sous, aujourd'hui, l'appareil ecclésiastique résiste un peu aux nécessités actuelles de privation. Pourtant, le pape François est le premier à inciter le clergé à consentir à un retour à une certaine pauvreté évangélique. Et il en donne lui-même l'exemple. C'est pour lui une question de justice sociale. Il ne serait pas juste que l'institution soit plus riche que les fidèles pour qui elle existe.
Oui, il me semble quand même que les choses devaient être différentes à l'époque où saint Paul écrit. Parce que l'on pensait que le retour du Christ était proche et qu'il n'était pas nécessaire de se projeter sur du long terme. Les questions d'argent devaient avoir très peu d'importance. Mais de nos jours, on se rend compte qu'il faut s'organiser dans la durée et on hésite à faire confiance à un partage communautaire parce qu'on sait que tout n'a pas toujours été très correct au cours de l'histoire de l'Église. Le point de vue n'est pas le même si on compte en dizaines d'années ou en milliers. Ce n'est pas la même façon de voir.
Non.
Quand on a des enfants, une famille, il faut se montrer responsable pour eux et prudent, hein, avant de donner tous ses biens à l'Église pour permettre l'évangélisation des pays lointains. Par contre, autour de saint Paul, l'enthousiasme qui naissait a permis de répandre l'Évangile à toute vitesse. Hein. Bien sûr, on ne s'en plaindra pas. Mais ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Hein. On sent quand même une certaine usure, moins d'ardeur. Mais la situation peut encore changer après. D'où les promesses finiront bien par se réaliser.
Et bien sûr, c'est ça la foi. Il est certain que Paul était porté par la proximité du Christ et que c'est cela qui lui a permis de réaliser des choses extraordinaires. À l'endroit de la lettre aux Romains où nous sommes arrêtés, voici ce qu'il dit, donc toujours chapitre 15, verset 30-31. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi par les prières que vous adressez à Dieu pour moi, afin que j'échappe aux incrédules de Judée et que le secours que j'apporte à Jérusalem soit bien accueilli par les saints. » Donc, il s'apprête à partir à Jérusalem, apporter le produit de sa collecte, mais il n'est pas très sûr d'être bien accueilli par les chrétiens d'abord. Vous savez qu'il y avait des conflits avec les chrétiens de Jérusalem et encore moins bien accueillis par les juifs. Et de fait, nous pouvons lire ça dans les Actes des Apôtres, Paul aura des problèmes. Hein. Et malgré qu'il soit bien conscient des risques qu'il prend, eh bien ça ne l'empêche pas de partir parce qu'il obéit au plan de Dieu, comme il dit un peu plus loin. On voit qu'être apôtre, ce n'est pas facile et que ça demande un sacré courage parce que à Jérusalem, les Juifs sont, moins qu'on puisse dire, en colère contre Paul parce qu'ils lui reprochent de détourner les Juifs de la loi de Moïse. Et comme on sait, ça finit très mal par une arrestation. Mais en prison, Paul échappera au fouet parce qu'il est citoyen romain. Mais c'est le début d'un long procès, d'abord au Sanhédrin devant les Juifs, puis devant Félix, le gouverneur romain.
Oui, et finalement, saint Paul arrivera bien à Rome, mais là, pas en tant que touriste, entre guillemets, hein, mais comme prisonnier, hein, pour comparaître devant l'empereur. Par contre, son emprisonnement romain est assez particulier, hein, puisqu'il va bénéficier d'un régime de faveur qui lui permet d'avoir son propre logement et une vie quasi indépendante, hein, une forme un petit peu de liberté surveillée par un soldat romain. Là, Paul va recevoir chez lui des Juifs et essayer de se justifier. Alors, si on reprend là les Actes des Apôtres au chapitre 28, verset 26, voilà ce qu'il dit, hein, pour se justifier. « En vérité, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Donc, il va donc essayer de convaincre les Juifs, hein, de leur démontrer, à partir de la loi, hein, et des prophètes, que Jésus est bien le Messie espéré par Israël. Mais très peu d'entre eux furent convertis, en fait. Et saint Paul se consacrera donc aux païens, hein, ce qui est a priori normal, puisque Jésus le destinait à cette mission. Mais cela ne correspond pas tout à fait au souhait, hein, qui conclut l'Épître aux Romains. Je vous lis donc, nous sommes toujours au chapitre 15, et là je vous lis le verset 32. « Ainsi pourrais-je arriver chez vous dans la joie, et par la volonté de Dieu prendre avec vous quelque repos ?» En fait, on ne sait rien de très précis, hein, de la fin de vie, hein, de saint Paul. Sûrement pas énormément de joie ni de repos. Il n'a certainement pas pu aller en Espagne. Mais après tout, hein, l'essentiel était que l'Évangile continue d'être annoncé à Rome et de là gagne tout l'Occident.
Ouais, et donc avec ce verset, nous sommes arrivés à la fin du corps de la lettre de Paul aux Romains. Il ne nous reste plus que la bénédiction finale, donc qui est « Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. » Puis, les salutations d'usage dans le courrier de l'époque, qui sont ici incroyablement abondantes, puisqu'elles constituent tout ce qu'on a mis sous le titre de chapitre 16. Alors, si on n'était pas encore convaincu du nombre de personnes que Paul connaissait à Rome, là, on en a une preuve évidente. Paul a un petit mot gentil à dire pour au moins 30 personnes, dont des groupes et des familles, donc beaucoup plus certainement. Et il y a là-dedans beaucoup de femmes, et en particulier la diaconesse Phébé, dont il dit, chapitre 16, verset 2, Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Voilà une phrase qui nous montre que saint Paul n'avait rien d'un macho méprisant les femmes. Et que certainement plusieurs femmes eurent un rôle éminent dans les débuts de l'Église. Paul cite ensuite, par exemple, Prisca et son époux Aquilas, dont il dit ceci. « Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Christ, pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête, et je ne suis pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises du monde païen le sont aussi. » Je fais juste remarquer cette manière de parler du couple comme étant ses collaborateurs. Ça montre aussi qu'il ne tient pas du tout la femme comme inférieure. Les deux ont la même importance dans le service.
Un vrai couple.
Oui.
Et c'est vrai que dans la liste de ses relations, il y a quand même beaucoup de femmes. Hein. Donc, au verset 6, hein, donc nous sommes dans le chapitre 16. Je vous le lis, « Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. » Plus loin, au verset 12, « Saluez ma chère Persis qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. » Il y a aussi une Julie, une Olympias, au verset 16, et bien d'autres dont il ne dit pas le nom. Par exemple, au verset 13, « Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Alors, est-ce que cette mère est réellement celle de saint Paul et Rufus, l'un de ses frères, ou est-ce plutôt une façon... Je pencherais plutôt, hein, de façon de...
Pas dire...
Non.
Je ne sais pas.
On n'est pas d'accord.
Mais parce qu'on n'en sait rien.
Parce qu'on n'en sait rien, chacun son truc. Hein. Donc,
vous y voyez plutôt une proximité de
proximité, cœur. Voilà. En tout cas, bon, il est certain que Paul a de la famille à Rome, hein, puisqu'il dit au verset 7, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents. » Donc là aussi. Et encore au verset 11, « Saluez Hérodion, mon parent. » Ce qui est étonnant, c'est qu'il a l'air de citer tous ces gens-là dans les ordres. Hein. C'est comme si ça lui venait voilà, à l'esprit. Alors, il est vrai que Paul n'écrit pas vraiment, hein, puisqu'en fait, il est en train de dicter. Alors, on l'imagine bien, là, voilà, en train de marcher, tout en lançant des noms à son secrétaire, voilà, au fur et à mesure qu'il y pense. Et on est sûr de cela, hein, puisque, de toute façon, au verset 22, il dit ceci, « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. » C'est donc Tertius qui écrit pendant que Paul parle, ce qui peut expliquer un style quelquefois parfois un peu décousu.
Oui, c'est un style oral qui est pris au vol par un secrétaire. Et ajoutons quand même qu'au milieu de toutes ces salutations, Paul glisse quand même quelques recommandations qui sont assez révélatrices des problèmes qui pouvaient exister dans la communauté de Rome. Donc je vous lis versets 17-19 du chapitre 16. « Je vous exhorte, frères, à vous garder de ceux qui suscitent division et scandale en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces gens-là ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Et par de belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent les cœurs simples. Votre obéissance, en effet, est bien connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux... que vous soyez avisés pour le bien et sans compromission avec le mal. » Voilà donc qui résume bien le désir qu'avait Paul en écrivant, en fait, à l'église de Rome, de fortifier l'unité des croyants autour du véritable enseignement de l'Évangile. Il était venu, comme on dirait aujourd'hui, remettre les pendules à l'heure. Mais à présent, nous terminons notre émission et nous ferons la prochaine fois une synthèse de toute cette lettre pour essayer d'en extraire l'essentiel pour l'actualité de notre foi. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt, chers auditeurs.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.